Évangile de Luc. Chapitre 22. C'est la dernière Pâque. On pourrait intituler le message, je dis cela à l'attention de Dany, se mettre à table. Dans le sens figuré, hein, c'est-à-dire véritablement dire ce qu'il y a dans notre cœur et faire le bon constat. Le Seigneur a parlé au travers des dons de l'Esprit ce matin. Je crois que Dieu ne parle pas aux absents et Dieu ne parle pas en vain. Ça veut dire que la parole s'adressait à ceux qui sont dans la maison de Dieu dans cette matinée, parce qu'il est notre Père à tous, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies et il s'adresse en connaissant à nous en connaissance de cause. Voilà. Donc Luc, chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, nommé Iscariot, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie. Et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il rentrera. » Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. On va continuer la lecture, mais il se mit à table avec eux. Et souvent, au moment d'un repas que l'on partage, les langues se délient, on parle un petit peu plus librement. Et ce qui est dans le cœur apparaît. Et là, le Seigneur fait apparaître ce qu'il y a dans son cœur à leur égard. Un si grand amour, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Mais en même temps, il fait apparaître ce qu'il y a dans leur cœur à eux, concernant Judas, et maintenant concernant les autres, les apôtres. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui a table ou celui qui sert? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, à Avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent, de rien. Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son épée et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole soit, qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, l'amenèrent, le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là ? » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Voilà, le long récit qui a commencé autour d'un repas partagé. Et souvent, donc, lorsqu'on partage un repas et qu'on se sent plus, en confiance, notre vie un petit peu se pose, eh bien, on ouvre notre cœur, on partage les choses qui sont au fond de notre cœur. Et le Seigneur le fait à l'égard des disciples. Mais il est pleinement conscient de ce qu'il y a dans le cœur de ces hommes-là qui l'ont suivi, celui qui va le trahir, celui qui va le renier, les autres qui vont abandonner. Mais comme il savait les choses, il ne le leur dit pas sous forme de reproche, mais il veut que les choses soient mises à plat. Il veut que les choses soient mises au clair. Et nous marcherons avec Dieu, nous avancerons avec Dieu tout autant qu'avec lui, que devant lui, surtout devant la table, autour de la table, qu'il a désiré vivement partager avec nous, nous allons être au clair. Nous allons être vrais. La passion de Jésus, le prix qu'il paie pour nous, et puis la manière dont il nous parle, eh bien, nous amène à faire apparaître, ou amène les réalités de notre cœur à apparaître, réellement. Voilà. Et c'est une bonne chose. Allez nous préparer la Pâque, c'est l'heure. Et c'est l'heure, aujourd'hui, c'est le moment, peut-être pour quelqu'un, de prendre les choses en main et d'écouter la parole que le Seigneur lui adresse. Aujourd'hui, c'est l'heure du monde. Jésus va le dire, c'est votre heure, la puissance des ténèbres. Mais c'est aussi celle du sacrifice, parce que c'est l'heure étant venue. Et il y a les deux choses qui se côtoient. L'amour que le Seigneur montre, c'est le moment pour nous qu'il nous le montre. Et il l'a fait, et il le fait, et il le fera encore jusqu'à son retour. Il va montrer, c'est l'heure, c'est le moment de montrer son amour à chacune, chacun d'entre nous. Et en parallèle, c'est l'heure de ce monde. On a l'impression que Dieu n'existe pas, que Dieu ne fait rien et que les hommes font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais en même temps, c'est l'heure de la nouvelle alliance. C'est le temps d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. L'ancienne alliance, la Pâque, signifiait passer par-dessus. Pâque, c'est passer par-dessus. C'est ça. La nouvelle alliance, c'est pas passer par-dessus, c'est rentrer dans l'alliance. C'est ouvrir son cœur, donner au Seigneur la place qui lui revient. Et pour ce faire, demander pardon pour nos péchés, afin que l'Esprit de Dieu puisse faire cette œuvre en nous de nouvelle naissance et nous amener à avoir la certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il se met à table et les apôtres avec lui. Et ça, c'est bien. Mettons-nous à table avec le Seigneur et les disciples avec lui et les chrétiens avec lui et ceux qui s'approchent avec lui. On se met à table. Mets-toi à table. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Non pas qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pour Jésus, dans son cœur, il y a un amour absolu, inconditionnel. On est même surpris de le voir manifester cet amour auprès de tous ceux qui sont autour de la table, alors que les conversations qui apparaissent au bout d'un moment font apparaître un écart abyssal entre ce que le Seigneur est en train de leur dire et de manifester à leur égard et leurs préoccupations du moment. Fait apparaître également la trahison de Judas dans lequel Satan était rentré parce que cet homme, qui pourtant suivait le Seigneur Jésus, était l'objet de sa confiance puisqu'il détenait la bourse à partir de laquelle eh bien, il prenait, comment dire, il gérait les dépenses quotidiennes. Malgré le fait qu'il est l'objet de sa confiance, cet homme va ouvrir son cœur à l'ennemi de nos âmes. Nous devons veiller sur notre cœur. Mettons-nous à table. Qu'est-ce qu'il y a sur notre cœur? Nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Le Seigneur manifeste de la compassion, de la miséricorde, de la fidélité, de l'amitié. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et il y a un décalage. Au moment où le Seigneur se met à table et met tout sur la table, il y a un décalage entre ce qu'il ressent pour eux et ce qu'eux sont à ce moment-là. Voilà. Et c'est la réalité. Entre Dieu et nous, il y avait un décalage terrible à cause du péché, puisque nous étions complètement séparés de lui. Mais il veut réduire cette distance jusqu'à rentrer dans notre cœur. Voilà. La Bible nous dit que Satan est entré dans Judas parce que la porte était ouverte. Elle nous dit aussi qu'il nous réclame pour nous cribler comme le froment. C'est ce que Jésus va dire à Pierre autour de la table. Il sait la fragilité de Pierre. Il connaît la situation que vit cet homme. Il est capable de faire et de vivre de belles expériences dans la foi, mais il est capable aussi de chuter gravement. Et le Seigneur le sait. Et il intercède pour lui. Le Seigneur connaît nos faiblesses, nos fragilités. Et parce qu'il les connaît, il intercède pour nous. C'est le premier point. Parce qu'il les connaît, il nous parle au travers de sa parole, au travers de son esprit, comme nous l'avons vécu ce matin. Parce qu'il nous connaît, eh bien, il manifeste sa fidélité à notre égard tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et rien ne nous séparera de lui. Il connaît nos fragilités, il connaît nos imperfections. En pleine connaissance de cause, il est quand même venu nous chercher et nous sauver. Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Cribler, c'est quand on cherche le sens étymologique du mot utilisé, du verbe utilisé, c'est secouer dans un tamis. C'est ça, cribler, passer au crible. Et le sens imagé, c'est essayer de faire renverser la foi. Voilà. Et l'ennemi de nos âmes essaiera à certains moments de secouer notre vie, secouer notre foi pour essayer de la mettre à mal et de la renverser. Et les situations que nous vivons, les difficultés en particulier, plus que les moments heureux. C'est un risque aussi dans les moments heureux, quand tout va bien, de se laisser aller, voilà, et de ne plus vraiment marcher avec Dieu. Mais c'est dans les difficultés que les choses apparaissent peut-être de manière plus vive. Quelqu'un est malade. La difficulté le touche dans sa santé. Et j'ai vu des chrétiens auxquels pourtant Dieu avait parlé clairement lorsqu'il les avait appelés à s'approcher de lui. Des hommes et des femmes qui avaient été véritablement bénis, remettre tout en question d'un instant à l'autre. Aller jusqu'à ne plus lire la Bible, Allez, je ne suis à ne plus prier, et forcément, ne plus aller dans la maison de Dieu aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une fragilité. Le Seigneur la connaît, cette fragilité, dans notre vie. Mais on ne peut pas toujours se cacher derrière notre fragilité et dire, ah ben moi j'ai demandé à Dieu, Dieu ne me répond pas encore. Alors, puisqu'il ne me répond pas encore, c'est comme ça. Je crois que de temps en temps, on a un langage irrespectueux et absurde. Irrespectueux à l'égard de Dieu et absurde parce que c'est un langage qui est complètement faux. Nous nous trompons nous-mêmes, nous nous désabusons nous-mêmes. Il faut qu'on se ressaisisse. Le Seigneur n'a pas dit qu'en le suivant, on serait exempté de toute difficulté, mais qu'il serait avec nous pour les traverser et nous donner la force de tenir. Et la difficulté va mettre à l'épreuve notre foi. Mais comme le disait un don spirituel ce matin, Dieu va éprouver notre foi pour qu'elle soit assainie, qu'elle soit fortifiée et qu'elle apparaisse comme elle doit être, de l'or pur. Une confiance à Dieu que rien ne viendra plus jamais ébranler. Alors, si Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, le Seigneur prie pour toi. Premier point, mais toi, il faut que tu veilles sur toi-même. Il les engage dans la prière et il les retrouve tous endormis. Il faut que tu veilles sur toi-même. Il ne faut pas que tu te laisses aller, sinon tu risquerais de te détourner du bon chemin. Tu risquerais de te laisser vaincre par le mal, alors que nous devons surmonter le mal et le vaincre. Surmonter le mal et le vaincre. Nous pourrions faire des mauvais choix dans notre vie, alors que le Seigneur nous dit « Choisis la vie et ne choisis pas le mauvais chemin qui est loin de Dieu. » Le Seigneur dit « Moi, j'ai prié pour toi. » Allez, on se met à table. Et dans la difficulté, moi, qu'est-ce que je fais ?« Ah, Seigneur, j'en peux plus. Aide-moi. » Mais je le fais. Seigneur, parle-moi. Mais je le fais. Seigneur, prie pour moi. Mais je t'ai déjà dit que je le faisais. Mais toi, ne te laisse pas aller. Vous allez voir le médecin quand vous êtes malade. Il ne vous dit pas, vous ne vous occupez de rien, vous ne faites rien. Et moi, je vais m'occuper de tout. Il dit non. C'est ensemble. C'est avec votre engagement, c'est avec votre participation qu'on va y arriver. Et pour certaines personnes, leur volonté d'être soigné est telle que les médecins sont obligés de suivre. Dans la foi, quel est notre engagement, quelle est notre volonté? Allez, on se met à table, on met tout sur la table devant le Seigneur, devant l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il est à quelques heures de donner sa vie en sacrifice, c'est pas là qu'il faut avoir la langue de bois. C'est pas là qu'il faut biaiser, c'est là où il faut être vrai, tout mettre sur la table. Mais moi j'ai prié pour toi, je t'ai parlé, je t'ai dit l'amour que j'ai pour toi, je t'ai dit ce que l'ennemi de ton âme voudrait faire. Mais je mets des barrières, je mets des limites, et je vais intervenir, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour toi, jusqu'à intercéder auprès du Père pour toi. Mais toi, ressaisis-toi, affermis-toi, reviens. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ne laisse pas les choses filer. Sinon, ta foi va défaillir. Alors que le Seigneur est capable de la susciter et la mener à la perfection, moi, je la laisserai défaillir. Il y a des paradoxes. Rendez compte, celui qui est avec moi autour de la même table, à quelques heures de donner sa vie en sacrifice, est capable de susciter la foi et de la mener à la perfection. Et moi, suivant comment je gère la question, je risque de faillir dans la foi. À tel point que ça va amener le Seigneur à dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Alors qu'il est capable de la susciter, de la mener à la perfection, c'est un paradoxe. Ça veut dire que notre responsabilité, bien sûr, elle est engagée. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Lis et médite la parole de Dieu. Viens dans la maison de Dieu au moment de la lecture, au moment de l'étude biblique, au moment où on se recueille, on se tient devant le Seigneur. Il y a quelque temps, un vendredi soir, quelqu'un est venu qui passe par des moments difficiles et qui a dit « Non, non, je voulais vraiment être là ce soir. Je voulais être dans la maison de Dieu ce soir et prier avec les frères et sœurs. » Et ça démontre une volonté, ça démontre un attachement à l'égard du Seigneur. Voilà. Je ne suis pas en train de faire le plaidoyer des réunions. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, quand on est autour de la table auprès du Seigneur, lui, il nous dit « Bon, mais maintenant, on fait le point, on met tout sur la table. Moi, dans quelques heures, je vais vers la croix. » Vous allez continuer votre vie. Moi, j'intercède pour vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je prie pour vous. Moi, je vous garde, je veille sur vous. Mais vous, obéissez à ce que j'ai dit. Attendez la promesse que l'Esprit descende et vienne sur vous. Et le jour de la Pentecôte, c'est exactement ce qui va se passer. Et le Seigneur nous parle franchement. Et je crois que c'est bien que de temps en temps, comme ça, le Seigneur nous parle franchement, sincèrement, qu'il nous parle vraiment, afin que devant son amour, nous puissions être vrais. Et on va, sans aller trop loin, on va se recueillir dans un moment, parce qu'il convient devant la table, autour de la table, qu'il a dressée en face de nos adversaires, il convient d'être vrai, et de tout mettre à plat, et de tout mettre sur la table. Lui, il manifeste une passion à toute épreuve, qui va l'amener jusqu'au sacrifice ultime. Cette passion, elle fait apparaître ce qu'il y a dans notre cœur. Alors il est impératif, comme on le partageait vendredi soir, que nous naissions de nouveau et que les choses, nous ne les laissions pas en l'état. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est un impératif. Ressaisis-toi, c'est un impératif. Convertis-toi. Reviens, c'est la repentance. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est de l'impératif, c'est pas du « si vous voulez bien, voilà ce qui serait bon de faire ». Non, ce sont des impératifs dans notre vie sur la terre. Et vendredi, je le disais avec une image, le Seigneur a fait de nous, avant que le péché arrive, un chef-d'œuvre, puisqu'il l'a signé, et en bas, il a signé « très bon ». C'est pas prétentieux, c'est un constat. Que Dieu avait fait était d'une perfection totale. Le péché est venu à tout dégrader, il reprend l'œuvre, dans l'état de dégradation dans laquelle elle se retrouve, et il l'a fait passer par une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, désormais, autant dans la première, nous n'étions pas acteurs, il a tout fait de A jusqu'à Z, autant dans la seconde, nous sommes acteurs. Notre volonté est appelée, notre engagement est engagé, est total. Nous devons manifester notre volonté de voir l'œuvre de Dieu se faire en nous. Si les choses ne se font pas, nous risquons de nous retrouver dans un état d'inachevé. Et il n'y a rien de pire qu'un chef-d'œuvre inachevé. C'était bien parti, ça ne s'est jamais fini. Et le Seigneur nous dit que le plus important n'est pas le commencement d'une chose, mais la fin. Alors, nous sommes partis dans la foi, chacun, chacune d'entre nous, nous avons commencé de marcher avec Dieu. Maintenant, il faut achever le travail, il faut achever l'œuvre de Dieu. Et l'achèvement de l'œuvre de Dieu arrive à une barre ou à un but, un objectif qui est fixé de la même manière pour tout le monde, autant que la première fois, la perfection. Ce qu'il avait fait était parfait, ce qu'il est en train de faire doit aboutir à la perfection. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Il nous rend participants de la nature divine. Alors, on est avec le Seigneur, pardon, autour de la table, on met tout sur la table, et là, il y a des hommes. Pour nous, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, mais je ne pense pas que s'il y avait eu des femmes autour de la table, ça aurait changé foncièrement la réalité. Nous sommes avec le Seigneur, il y en a un qui a le cœur complètement ouvert à l'ennemi, à tel point qu'il va aller le trahir et le livrer. Il y en a d'autres qui ont d'autres préoccupations. Il y a celui qui pense qu'il est plus fort que les autres, alors qu'il va renier dans les heures qui suivent pendant 3 fois. Mais le Seigneur ne fait aucun reproche à personne. Mais il dit par contre, on ne reste pas comme ça. Moi je vais à la croix et vous ne restez pas comme ça. Et vous attendez ce que le Père a promis. La puissance de l'Esprit qui elle va achever l'œuvre que le Seigneur a commencée. Et on va se tenir devant le Seigneur, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu vienne en nous, et qu'avec l'aide de l'Esprit et l'onction de l'Esprit, l'achèvement de l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies.